Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. C'est avec un immense bonheur que je vous retrouve aujourd'hui pour notre émission Palabre. Une émission Palabre avec un invité exceptionnel que vous apprécierez, je n'en doute pas, puisque aujourd'hui nous recevons pour vous Monseigneur Gilbert Aubry, mais surtout le poète. Monseigneur poète, bonjour et merci de répondre à notre invitation.
Bonjour et merci de l'invitation.
Alors, Monseigneur, justement, mon cher poète, tu nous reviens pour notre plus grand bonheur avec un nouveau recueil poétique d'une grande qualité, une pépite, hein, « Mon grand pays », toujours aux éditions Epica. Quelle mouche te pique pour, au lieu de prendre ton temps, tu écris tout le temps comme ça? Est-ce que c'est ton ADN d'écrire et d'écrire de la poésie?
Je pense que ça fait partie de mon ADN et de mon ADN familial. En oui. Ce sens-ci, c'est que j'étais à l'école primaire et puis j'avais un camarade avec lequel je marchais pour aller à l'école tous les matins. Dans mon cahier d'exercice, je lui avais écrit une lettre. Je renvoie encore « Mon cher Jacques, je veux aller en vacances. » Bon, et puis ma mère ouvre le cahier, elle trouve ça. Elle dit « Mais alors ?» Je dis « Ben, je veux aller en vacances, moi. » Bon, donc c'était un message que je faisais passer, mais à travers cette lettre qui s'adressait à un premier niveau à mon camarade et à un niveau plus profond à ma mère pour que je puisse partir en vacances.
C'est très bien. Alors, cœur à la grand voile, hymne à la vie, mon grand pays, peut-on véritablement dire ou penser qu'il s'agit là d'un triptyque, tellement il y a une espèce de solidarité entre ces trois ouvrages qui ont le même format, la même première de couverture très épurée?
Oui, je partage ce que tu dis, et sur le rabat de la une de couverture de Mon grand pays, j'ai écrit « Cœur à la grand voile nous conduit au large de la lumière » pour faire chanter le « Cœur à la grand voile », c'est 2021, « nous conduit au grand large de la lumière » pour faire chanter « L'hymne à la vie » 2023 sur notre grand pays 2024.
Voilà, tout à fait. Donc, véritable solidarité. Mais j'ai envie de m'arrêter sur la première de couverture de Mon grand pays, avant de voir un peu le titre. On avait eu ce bateau qui illustrait bien les cœurs à la grand voile, l'hymne à la vie avec cet oiseau,
le paille-en-queue.
Le paille-en-queue qui s'envolait dans une espèce de verticalité qui nous conduisait peut-être vers l'Esprit Saint. Et puis, mon grand pays, on a plutôt les rayons qui tombent, voilà.
Oui,
les
rayons qui tombent, alors l'illustrateur c'est Fabrice Urbatro.
Oui.
Qui a illustré les trois recueils, et moi je lui ai donné l'idée, j'ai fait un brouillon que j'ai griffonné, et finalement il a repris mon brouillon, mais évidemment en l'épurant davantage, et en donnant une dynamique non pas gauche-droite, gauche-bas, et droite-haut, tandis que là, les rayons viennent de droite haut vers le bas gauche. C'est-à-dire que là, c'est davantage la dimension de l'inspiration qui va, d'une certaine manière, magnifier l'île dans la lumière.
Oui. Tout à fait, avec cette invitation quand même à rejoindre cette île avec le bateau.
Le bateau.
Oui. Et quand même, nous trouvons aussi le paille-en-queue qu'on avait déjà vu dans Hymne à la vie.
Oui, tout à fait d'accord, je suis d'accord avec toi. Et la couverture permet justement de parler d'un triptyque.
Oui, alors nous ouvrons le recueil Et après avoir découvert ces deux épigraphes, je me rends compte que toujours René Char. Alors si tu pouvais nous lire cette épigraphe de René Char.
Oui. René Char, extrait de « Commune présence ». Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre.
Oui, magnifique. Alors, tu nous diras pourquoi tu l'as choisi. Parce que moi, j'ai envie de t'offrir deux autres citations de René Char qui me semblent convenir à ce recueil. Nous habitons un éclair, il est le cœur de l'éternel. Première citation, ne te courbe que pour aimer. Et les deux citations sont extraites de Fureur et Mystère.
Oui, aimer, et nous avons la relation tout de suite avec aussi la première épître de Saint Jean. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et la citation de René Char que tu as rajouté, pour moi, rejoint, ou plutôt c'est moi qui rejoins René Char, avec cette lumière qui descend sur l'île de la Réunion.
Tout à fait, très beau message. Et si nous tournons la page, nous avons une auto-citation, puisque c'est une citation de toi-même que tu nous lis.
La poésie met des ailes aux mots pour qu'ils s'envolent comme des oiseaux, et nous emporte avec eux.
Alors, quel est le message dans cette citation?
C'est l'élévation vers la transcendance. Voilà. Et que, finalement, la poésie, elle est autour de nous, comme les oiseaux sont autour de nous. Mais, en général, nous ne voyons pas la poésie. Ou elle est inconsciente. Et les poètes, justement, voient tout ce que les autres voient, mais ils les voient d'une autre manière, avec toute une dimension symbolique.
Mais depuis Baudelaire et Rimbaud, ils voient aussi ce que les autres ne voient pas, ce qui nous oui. est caché, oui. nous font découvrir, voilà.
D'où la dynamique de l'intelligence, oui. qui consiste à lire à l'intérieur, intelligere, oui. lire à l'intérieur. Oui. Et en même temps, on pourrait dire aussi religare.
Religare, relier, bon, relier. Religion. Oui.
Voilà.
Et voilà. Donc, je n'ai pas parlé du titre parce que je voulais d'abord voir les deux épigraphes et l'autocitation. Mon grand pays. Alors, c'est assez paradoxal puisqu'on dit que nous sommes des insulaires, c'est un petit pays. Géographiquement.
Mais exactement. Donc, le petit est très inscrit dans la psychologie réunionnaise, quelles que soient nos attaches ethnoculturelles, nos racines ethnoculturelles. On est toujours avec un petit peu, un petit pays, la Réunion, mon petit pays, un petit paradis, d'ailleurs, c'est pas un paradis, c'est une terre, voilà. Un petit coup de sec, un petit coup de main.
Oui.
Moi, quand on dit La Réunion, mon petit pays, un petit paradis, parfois on chante ça à l'église, moi ça me fait dresser les cheveux sur la tête, les cheveux que je n'ai pas d'ailleurs, mais non, ça dépend de notre intériorité.
Oui.
D'où le grand pays, c'est-à-dire il a du poids, et d'ailleurs il surgit de moins 3000 mètres sous l'océan et il va monter à plus 3000 mètres jusqu'au fond du ciel.
Oui.
Et donc, dans la mesure où nous l'aimons, notre pays n'est pas un petit pays, notre pays est un grand pays à la mesure de notre amour pour lui.
Moi, je voyais la dimension un peu matricielle où ce pays, à l'image d'une mère, accueille encore.
Oui, oui, la Réunion, je partage ton appréciation. Et à un moment donné, je dis dans le poème, c'est matriciel, comme tu dis, nous sommes portés par la lignée de nos ancêtres, connus ou inconnus, venus de tous les continents, de gré ou de force, sur un emboîtement de volcans qui nous volcanise nous-mêmes sur cette terre. Notre terre surgit du fond de l'océan vers le plus profond du ciel après 3 millions d'années de gestation tellurique. Nous sommes amenés maintenant, nous les cabossés de l'histoire, tous mestis culturels et culturellement universels. Et puis, après je parle de la communauté de destin, toujours et encore en devenir. Peuple ontologiquement peuple, mais inconscient d'être un peuple et inconscient de son histoire, sinon à rabâcher une histoire qui n'est pas notre histoire, cette vieille et désuète rengaine de nos ancêtres, les Gaulois, d'une Gaule qui n'était point, la France encore moins, l'Europe, Madagascar et l'Afrique, le Moyen-Orient si déchiré, les Amériques, le Nouveau Monde, pas si nouveau, puisque déjà vieux, l'Inde, la Chine et le Japon, sans compter les îles du monde entier, dont la nôtre, au cœur brûlant, qui palpite en nos veines. L'île porte le monde entier.
Oui, l'île intense. Oui, alors avant d'entrer dans les poèmes eux-mêmes, je fais juste une toute petite présentation, ma lecture de ce recueil. Ces poèmes nous donnent à entendre une poésie vivante, pensante, agissante, une espèce de parole archipélique. Maurice Blanchot a parlé de poète de l'essence du poème à propos de René Char. On pourrait dire autant de Gilbert Aubry, lui qui s'approche au plus près du mystère poétique. Une parole oraculaire, parfois avec un flux sémantique très ouvert, qui unit souvent les contraires. Exemple, comment d'ennemis redevenir frère dans le poème Miséricorde que je te demande de nous lire. J'ai pas noté la page malheureusement.
17.
Page 17.
Miséricorde. Non et non, ce n'est pas acceptable. De tous côtés, trop souvent, il n'y a que violence, tuerie, barbarie. Elles viennent nous assaillir jusque dans nos retranchements personnels d'une guerre mondiale et anonyme, pourtant médiatisée à outrance par divers canaux de communication qui nous bombardent jour et nuit d'informations à nous faire désespérer de nous-mêmes et de l'humanité. Combien d'années encore? Combien de mois, de semaines, de jours de larmes de sang, de visages en charpie, de bras et de jambes cassés, de nécessaires fauteuils roulants, de morts sans sépulture, de fosses communes hors cimetière, de cimetières sans fleurs ni prières, les familles ayant pris les routes de l'exode sans même savoir où se réfugier. Les femmes et les enfants sont seuls. Les hommes abasourdis et déshumanisés dans ces guerres aux batailles meurtrières sont formatés à réagir automatiquement, attaquer, se défendre, tuer pour ne pas être tué. Instinct de mort, instinct de vie, pour survivre quand même, en sachant qu'un jour à venir, même s'ils sont estropiés mais toujours vivants, il faudra bien s'entendre. Comment d'ennemis redevenir frères? Nous devrions avoir nos cœurs transpercés de nous étriper en chamaillerie fratricide quand la respiration de la terre se fait de plus en plus haletante, ralentissant notre propre respiration, cri d'alarme de notre maison commune qui brûle et crie encore plus fort pour réveiller en nous tous un sursaut collectif et salvateur contre l'ignorance, l'insouciance et l'arrogance d'une boulimique société de consommation.
Magnifique. Là, tu fais vraiment tienne cette phrase de René Char encore. La poésie est une insurrection du langage. Mais ta poésie est une poésie qui fait sauter les servitudes de la mémoire, du mal-vivre, de la brisure pour finalement redevenir frère.
Exactement, exactement.
Et oui, je trouve absolument magnifique, justement. Et je me dis qu'aucun recueil ne... Dans ce recueil, en tout cas, on prend le départ pour les premières mesures d'une symphonie, mais d'une symphonie en miettes, d'une humanité brisée. Hein, mais que suggère ici la poésie dans une espèce d'épiphanie, de renaissance?
Oui, et c'est pour ça que dans le poème « Mon grand pays », et qui donne son titre au recueil. Oui. Mon grand pays, je parle de l'identité prophétique de l'île. Et j'ai mis sur une seule ligne le mot réunir. Ré-unir. Et que nous avons toujours à souligner la dimension de l'intériorité dans les relations, de l'humanité. Pour l'humanisation.
Oui. C'est pour ça que je parlais au départ de poésie oraculaire aussi. Hein, l'oracle qui dit, qui déroule la parole du monde. Hein. Saint John Perse disait qu'il veut simplement réciter le monde pour ceux qui refusent de voir ce monde.
Tout à fait. Et nous sommes appelés à faire parler la création. Parce que la création, elle est muette. Elle ne dit pas la conscience qu'elle a d'elle-même. Et c'est nous qui prenons conscience de la vie, et la vie, elle est une. Il n'y a pas 36 000 vies. Il y a une seule vie qui est diversifiée dans les arbres, dans l'eau, dans les poissons, dans les animaux, et surtout dans les êtres vivants que sont les hommes et les femmes, interconnectés avec tout ce que je viens de dire, et capables de faire chanter la création, comme saint François d'Assise a écrit son Cantique du Soleil.
Oui, alors une originalité de ce recueil, c'est que justement les têtes de chapitre, un peu, je pourrais dire, sont écrites en rouge. Et surtout, quelque chose d'absolument original, c'est que tu mets les notes manuscrites qui nous permettent de comprendre l'évolution du poème quand il est abouti. Et tout le travail que le poète a construit avant de publier ce recueil.
Oui, c'est cette page qui, en finale du recueil, s'intitule les deux pages en vis-à-vis, jardinier des abeilles et des brebis, montre bien tout le travail d'écriture, de reprise, de correction. Et si on avait en face le texte imprimé, alors on verrait bien qu'il y a des choses qui ont été changées.
Bien sûr, des corrections qui ont été apportées. Je reviens sur les poèmes. Moi, je suis fascinée par certaines formules qui me semblent même vraiment surgies par une inspiration. Quand tu dis, par exemple, dans le poème « Cyclone », ce qui prie, prie. Ce qui ne prie pas, prie aussi, en point d'interrogation. Formule efficace, percutante, des mots qui éveillent, mais des mots qui cautérisent aussi. Dans ce même poème, tu commences par ce que j'ai noté comme des lignes d'arbres et d'eau, un paysage qui parfois se fait turbulence. Hein.
Oui, et puis... On est ramené à la petitesse. On est ramené à la petitesse lorsqu'il y a un cyclone qui passe.
Oui.
Tout le monde s'intériorise, se spiritualise, car face aux éléments déchaînés, chacun fait l'expérience de sa petitesse et du prix de chaque vie à sauver, à commencer par la sienne. S'intérioriser. Et la prière, ce n'est pas d'abord des mots, La prière, c'est un élan du cœur qui nous fait monter, qui nous élève et en même temps qui élargit le périmètre de nos relations. Donc, si le cyclone nous conduit à notre petitesse, ça veut dire que c'est possible, parce que dans la conscience profonde, il nous fait prendre de la grandeur de ce qui est autour de nous.
Oui, très bien. Et moi, je suis aussi frappée, par exemple, dans ce cyclone, dans ce poème Cyclone, comment le rythme, le son, même, c'est aussi un poème visuel, tout cela traduit bien le thème. Par exemple, j'ai noté, la prof de français, des allitérations en « dé », en « peu », en « peu », qui montrent bien le déchaînement des éléments avec cette structure en forme de parataxe, hein, où les mots s'agglutinent, se déchaînent, miaulent et s'infiltrent sous les fenêtres fragilisées. On a l'impression de vivre ce moment et d'entendre le bruit des claquements.
On est dans la ménagerie invisible.
Voilà, oui. Et oui, des mots qui claquent. Vraiment, c'est... Comment tu travailles d'ailleurs pour rendre ces sons, pour créer ces images? Est-ce qu'il y a une manière...
C'est en remémorisant le cyclone.
Oui.
Avec aussi bien les images que les sons. Et puis cette désarticulation,
oui,
de tout ce qui se passe.
Oui.
Voilà.
Tout à
Donc
fait.
Il faut que l'écriture soit elle-même, je dirais, désarticulée.
La métaphore des idées, qui est une adéquation entre idées et l'écriture elle-même. Alors, dans une autre veine, j'ai particulièrement aimé ce poème « Paix ». Et là, je dis que c'est vraiment une poésie qui a une parole absolue, sans situation de facticité, une poésie qui débarrasse l'esprit des oripeaux de la vie quotidienne, avec encore une fois un arrangement sonore et musical. Envolée, espérance, allitération en L, l'assonance en O, il y a véritablement un jeu sur les sonorités avec ce qu'on appelle les parodomases, les mots qui ont des sons.
Oui.
Identique.
Je prends par exemple la page 27 de ce poème. Là, il y a déjà le grand pays en gestation. Partout, partout, mon pays se réveille. Comme un petit enfant dans sa corbeille. Alors là, on peut penser
à Moïse.
Moïse. Sauvé des eaux. Et la lessive qui fleurit au grand air ravive, lessive ravive.
Oui.
Oui. Ce qui montre l'humanité de cette tendresse aux mains si bonnes, la poussée des petits d'hommes pour qu'ils connaissent les saisons. Voilà.
Mais justement, comment tu transfigures la réalité pour en faire justement une œuvre d'art, hein, tel un alchimiste? Parce que faudrait lire peut-être un peu plus de ce poème.
Oui, quel passage, hein?
Je sais que le miracle se fera. Et puis la suite.
Je sais que le miracle se fera au moment où passera la grâce sans mesure, qui arrive au fur et à mesure des besoins de chaque instant sur le seuil d'un nouveau printemps. Et voici la flamme de la foi qui tremble au bord de chaque toit, qui penche et s'épanche pour que se pansent les déchirures trop vives jusque dans la chair maladive. Je le sais, j'en suis sûr. Car j'ai fait le mur pour l'option qui rend sage de folie prénatale. Je le sais, j'en suis sûr. Car j'ai fait le mur pour l'invisible aveuglant, mes tympans bourdonnant d'images sonores, où j'enregistre seul encore ce que les yeux ne voient pas et que l'oreille n'entend pas. Partout, partout, mon pays se réveille. comme un petit enfant dans sa corbeille sauvée des eaux, et la lessive qui fleurit au grand air ravive la tendresse des mains si bonnes, la poussée des petits d'hommes, pour qu'ils connaissent les saisons où l'on bâtira des maisons, en se lançant des bons jours, autour et alentour, le matin, le midi et le soir, même à 6 heures du soir. Car nous savons que la lumière naît de la lumière à l'orée de regard qui déchire le brouillard, comme ces grands arbres rajeunis à ne pas vieillir et qui sourient de quiétude avec leurs doigts noueux et transis de froid. Avec leurs souvenirs de reposoir, ils déracinent un ciel d'espoir, balancement de leurs feuilles d'argent pour la contemplation d'un cœur d'enfant. Et moi, éternel pèlerin, trouverai-je seulement mon cimetière marin qui ne supporte pas les requiem ni les phases de carême? Je préférerais le boléro de Ravel pour m'en aller tel un déferlement d'alléluia par-delà une tombe d'hortensia où viendraient boire des petits oiseaux bleus comme l'eau vive des pipeaux ou celle des valses viennoises dans mon étrange mystère de turquoise.
Magnifique. Et justement, je voulais dire à nos amis auditeurs qui écoutent cette émission, si cette poésie vous bouleverse, c'est finalement pour mieux nous unir, hein, même si elle porte atteinte à nos sécurités. Et puis à toi, je voulais demander si la dernière partie de ce poème n'est pas un poème testament.
C'est-à-dire...
Et moi, éternel pèlerin, trouverai seulement mon cimetière marin qui ne supporte pas le requiem ni les phases de carême. Est-ce que c'est un poème de testament? Je préférerais le boléro
oui,
de Ravel.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est... Et le boléro de Ravel, il faut bien l'avoir en tête.
Oui.
C'est toujours les mêmes mesures musicales du début à la fin.
Et puis, très long, hein, ça dure, je crois, 12 minutes ou plus.
Et c'est le même rythme, la même ligne mélodique, mais qui, au fur et à mesure, s'amplifie par l'harmonisation qui fait rentrer tous les instruments.
Oui.
Et c'est finalement une trajectoire. Et lorsque je parle du cimetière marin, je parle aussi de mes ancêtres.
Ah oui ?
Qui sont inhumés dans le cimetière marin.
Ah, d'accord. Je pensais à un poète, mais bon, non, c'est le cimetière... Ah oui, à Saint-Paul, c'est le cimetière marin. Et puis, il y a ce poème, « Humanisation ». Qui présente une existence, page 32, complètement assumée dans la création encore, ce qui suppose la lutte pour la préservation de notre environnement, un thème tellement à la mode.
Oui, oui. Et le poème Humanisation...
Page 32,
vient après... Vœux.
Oui.
Le poème Vœux. Et le début du poème Vœux, page 30,
oui,
nous dit « La terre n'en peut plus de souffrir, elle a tant et tant pleuré, que les océans ne suffisent plus à recueillir le flot de ses larmes. » Voilà pour Vœux. Et humanisation maintenant. « La terre n'en peut plus d'être si malmenée. » Auparavant, elle a déjà pleuré.
Elle a pleuré.
Mais on continue à faire pire. On est en train de la malmener.
Oui.
Et elle a pris un gros coup de chaleur qui fait fondre les glaciers, bouleverse les floraisons, la maturation des fruits de saison. Voilà. Donc
oui.
Les deux poèmes s'enchaînent, mais le deuxième poème souligne... notre responsabilité dans la gestion de la planète Terre qui est notre maison commune.
Et puis notre responsabilité de chrétien aussi d'appeler les autres quand même à être attentifs à cette nature, à cette création, à cet environnement
Et la responsabilité de chrétien est soulignée page 34 dans ce poème-là,
oui.
Puisque je dis « Depuis Jésus-Christ, nous comptons 2024 rondes elliptiques de la Terre autour du Soleil en notre univers. Nous oublions que nous sommes dans ce que nous avons appelé l'ère chrétienne.
Oui. »
Et si on pose aux personnes « Pourquoi 2024 ?» 2024 par rapport à quoi? Ce qui veut dire qu'on est invité à une civilisation de l'amour.
De l'amour.
À partir même de cette ronde elliptique, ces rondes elliptiques de la Terre, autour du Soleil dans notre univers, parce que ce n'est pas le seul univers qui existe, et la Terre, là on est ramené à l'humilité, et la Terre tourne sur elle-même pour nous offrir nos jours et nos nuits sur une trame cosmique. Parce que si la Terre ne tournait pas, on ne pourrait pas vivre.
Et puis c'est peut-être une invitation, dans ce poème en tout cas, à accueillir le temps, à vivre le présent, une manière de condenser la durée. Hein. Ce qui compte en fait, c'est la fièvre du désir divin hein, pour habiter ce temps, pour habiter cet espace.
Oui, c'est le désir de l'intemporalité ou de l'éternité.
Oui.
À travers le temps.
Oui, tout à fait, un présent perpétuel finalement. Et puis nous avançons et nous trouvons donc ce poème avec sa version, en tout cas une partie de sa version manuscrite, hein, « Jardinier des abeilles et des brebis ». Qui est le jardinier?
Jardinier, ça pourrait être l'auteur lui-même.
Eh bien, c'est bien ce à quoi j'ai pensé. Donc, ce poème exprime un rêve d'harmonie, de douceur, de grâce, ce qui doit être le rêve de chacun de nous, finalement.
Oui, mais je dirais, d'une certaine manière, ce poème est de la poésie pure.
Oui.
De laisser l'imagination prendre le dessus.
Oui. Voilà. Tu veux nous en lire quelques lignes, peut-être?
Oui, c'est un peu long, mais on
oui,
peut...
Oui, au moins quelques lignes, quelques vers. Parce que tu nous embarques, là, dans ce poème, vers un voyage, vers la beauté. Hein, tu te donnes à voir, si c'est toi le jardinier, comme un amoureux de la beauté, à l'image d'un mystique aussi. Tu avais parlé de Saint François d'Assise. Voilà.
Bon, je prendrai le tout début et puis la finale. Jardinier des abeilles et des brebis. Un jardinier, amoureux de ses fleurs, regarde des champs d'oiseaux voleter, venir et partir et revenir se poser, se reposer sur les pétales parfumés avec les clés de sol ou de fa sans dièse ni bémol. Ce jardinier s'envole alors vers je ne sais quel ciel d'enfance où ses yeux grains de raisin plantent des nouveaux cépages aux grappes juteuses destinées au pressoir de son imagination. Il déguste un grand vin millésimé aux notes de miel vert, son vin à lui, qui l'entraîne sur les sentiers poudreux de sa mémoire en balade. Les abeilles des forêts lui tournent tout autour, bourdonnant de joie. À son tour, il se met à fredonner un air d'accordéon qui fait frissonner l'air frais du matin. Et, dansant d'un pas malhabile, il retrouve sa jeunesse d'antan où, dans un futur antérieur, mais inconnu de lui-même, il a été berger d'un troupeau de brebis aux toisons d'or qui marche toujours sur la mer au rythme de chants d'oiseaux. Il a comme un demi-sourire, voilé de larmes perlées, larmes pour arroser son jardin, jardin où les autres pourront venir et revenir cueillir des roses sans trop d'épines, Ensuite, les emporter en bouquets, en rubanés de chants d'oiseaux et de brins de laine, brins de laine provenant des brebis aux toisons d'or qui broutent du vent à pleine gueule sur la grande prairie de la mer.
C'est beau. Merci, le temps passe vite, mais on arrive à ce poème donc, dont tu as déjà parlé, Mon grand pays, poème éponyme, puisque c'est lui qui fait le titre du recueil. Mais en marge, en rouge, donc tu te dis, et maintenant c'est le moment de l'ancrage marronnage dans notre port d'attache. Pourquoi ce rapprochement par un trait d'union entre ancrage et marronnage?
Parce que l'ancrage demande à ce que l'ancre puisse pénétrer la terre. Et le marronnage nous permet de nous approprier la terre.
Oui. Ce poème, j'ai dit que c'était l'allegro final, même si ce n'est pas le dernier du recueil. Et je dis donc, Gilbert Aubry est un poète, et c'est un poète au nom de son éthique personnelle de poète qu'il se risque sur les champs de l'histoire. Au fond des pires abysses jaillit un chant de matin clair, ici dans ce poème. Quelle est ta lecture? Comment est-ce que ça te correspond? Et puis, dans ce poème, on se demande finalement, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'exorcisme à faire de cette histoire-là?
Oui, et l'exorcisme, il est à la page 54. Ne bradons pas notre dignité d'êtres humains, tout simplement, et bien plus encore notre dignité d'enfant de Dieu. Depuis que le sang du Christ a fécondé notre commune terre sous le même soleil, sous les mêmes pluies, dans les mêmes cyclones, l'aubier de tous nos cœurs est imputrescible en bois de fer pour que le cantique des cantiques chante l'amour à tout jamais.
Oui, et en évoquant le cantique des cantiques, ce magnifique chant d'amour finalement, on voit que la lucidité sur cette histoire, et parfois sur le reniement de cette histoire, la lucidité ne congédie pas l'amour. Et certes, c'est une déchirure. Nous sommes, dis-tu, encore aliénés pour beaucoup, adeptes de la décalcomanie qui consistait à copier une image existant déjà, adeptes de mimétisme, mais comme un oracle, encore une fois, qui pourfendrait l'avenir pour lui offrir le plus beau des messages d'amour et de fraternité, tu nous offres ta poésie comme si tu marronnais dans la langue de l'autre pour montrer justement que je suis aussi poète, même si j'ai été colonisé.
Oui, oui. Et nous ne serions pas non plus nous-mêmes si on reniait la colonisation.
Ah, certainement, oui, voilà.
Et la colonisation, elle fait partie aussi de nos racines.
Ontologiquement, notre essence.
Ontologiquement.
Oui.
C'est pour ça que je parle d'un peuple et qui n'a pas conscience d'être un peuple.
Voilà. Tu évoques aussi, in fine, ta filiation aussi avec Rimbaud, hein, parce que je trouve cette référence rimbaldienne, page 60, « Évitons de devenir dangereusement bateau fou ». Le bateau ivre de Rimbaud. Et oui, tenons à l'ancrage dans notre port d'attache grâce à l'expansion de ce marronnage.
La priorité, si je prends 58,
oui.
Priorité absolue, s'insurger contre nos paralysies mortifères, refuser d'être une méga-collection de trouloulous en roulette qui n'aurait de plein que le ventre, ambition collective, vouloir, devoir et pouvoir réaliser ici, avec l'apport de tous, un projet global de société au bénéfice de tous équitablement. produire au mieux ce dont nous avons besoin, pouvoir exporter à l'international richesses matérielles et immatérielles, nous inscrire dans un marronnage nouvelle manière qui nous fera abolir cette vampirisation sadique dans la fascination pour des goyaves de France, respect d'abord pour nous-mêmes, respect aussi pour la France elle-même.
Bien, moi je note justement l'audace de certaines formules, une méga collection de trouloulous à roulettes. Moi j'ai trouvé ça fort judicieux, fort audacieux, les goyaves de France. Alors je ne sais pas si ça a la même signification ici qu'aux Antilles. Ça veut dire quoi?
Les goyaves de France, ça veut dire que, bon, en France il n'y a pas de goyaves.
Oui.
Bon. Mais si on a des goyaves qui sont très grosses et qui sont très bonnes, alors on va dire « Ah, c'est une goyave de France
oui. ». Bon. Ah ben nous, c'est pas ça, c'est aux Antilles, goyave de France, c'est les oreilles. Voilà. Oui.
Ben, ça peut être aussi interprété comme, comme ça. Hein.
Voilà, alors nous allons terminer tipa ce recueil. Alors, avant de conclure, il reste deux autres poèmes, donc tu peux nous en parler. Souviens-toi, le dernier poème, qui je l'espère n'est pas le dernier poème écrit par Gilbert Aubry, mais le dernier de ce recueil, tu en appelles à notre divine humanité.
Oui, on pourrait dire que si je pense à Saint Justin, qui disait que Dieu n'est pas, le mot Dieu n'est pas le nom de Dieu. Et nous rejoignons aussi à travers ce poème-là les amis musulmans qui attribuent à Dieu 99 vocables, mais ça s'arrête à 99 pour ne pas partir jusqu'à 100, parce qu'on ne peut pas faire le tour de Dieu.
Voilà. Ah oui,
voilà.
C'est édifiant.
Donc c'est voilà. Dieu... au-delà de tous les cieux, soleil de tous les soleils, rayonnement d'amour éternel, incompressible amour, source de toute beauté, intarissable bonté, miséricorde qui raccorde les cœurs désunis pour en faire des cœurs renouvelés de ta profonde miséricorde, des cœurs rassemblés d'un même élan d'humanité. Toi, Dieu, notre Père, souviens-toi de nous, pour que nous nous souvenions de toi qui nous donne à nous-mêmes notre divine humanité. Humanité, humanité, souviens-toi qu'il se souvient de toi pour que tu te souviennes de lui et que tu reviennes à lui, plénitude d'amour et de vie.
Magnifique. Nous avons donc traversé pour vous, tipa, le dernier recueil de Gilbert Aubry, poète à mon grand pays, aux éditions Epica. Mais je vous recommande, chers amis auditeurs, si vous ne les avez pas encore, de vous procurer le triptyque « Cœur à la grand voile », Hymne à la vie et mon grand pays. Pour ma part, je vous dis, hein, ma lecture, la parole de Gilbert Aubry se taille un passage dans la file des grands poètes français. Nulle nostalgie dans cet ultime livre, mais une sérénité quelque peu douloureuse parfois. L'archipel que constitue ce recueil est une constellation organisée en vue de la recherche d'un sens, un sens enclos en chacun des poèmes. Mais dans le mouvement de, mais aussi dans le mouvement de rassemblement et de dispersion qui lie et délie chacune des pages. Gilbert Aubry nous donne encore une morale de l'homme debout, hein, lueur vacillante d'une bougie. Ses poèmes éclairent inlassablement notre existence insulaire. Sa poésie est toujours vécue d'un cœur juste et prophétique, souvent presque toujours en avance d'une attitude juste. Alors, pendant que je lisais ma conclusion, j'avais envie de te demander si je voulais créer une épithète à partir de la poésie aubriste. oubliette, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, parce que tu sais que les critiques littéraires cherchent toujours l'épithète qui correspond à cette poésie.
Oui, l'adjectif avait déjà été employé par Daniel Roland Roche.
Ah oui, alors
et c'était... La poésie aux moyennes.
Bon, mais c'est parfait, regarde. Alors, je te laisse le mot de la fin pour nos auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Et si tu as des signatures, des dates à dire. Et puis, je remercie infiniment Michel qui nous a accompagnés pour la réalisation technique.
Merci pour ce moment de partage. Et qui me conduit à mieux relire ce que moi-même j'ai écrit.
Oui, mais il ne faut pas relire, il faut dire à haute voix. La poésie
oui, tout à fait.
Se dit, se proclame.
Ouais. C'est ce que j'ai écrit pour une préface à Ernest Cottret, qui a écrit en 1862 « Les Sensitives », et qui aura une réédition grâce cette année, grâce à l'Académie de l'île de la Réunion.
Bon. Oui, mais nous avons encore une émission à faire sur ça.
En disant que, justement, la poésie, elle est faite pour être vocalisée.
Absolument.
Pour être proclamée. Bon, elle n'est pas faite pour être enfermée dans des livres.
Oui.
Les livres sont essentiels pour aider à l'envol.
Oui.
Mais ce qui compte, c'est l'envol.
Oui, parce qu'on rate quelque chose. Quand le poète a travaillé sur les sons, sur les rythmes, lire avec les yeux ne rend pas cette rythmique, justement, cette prosodie.
Oui. Et lire avec les yeux, la graphie, et la disposition sur la page
oui.
Contribue justement à inciter à la proclamation du poème.
Absolument.
Et ça donne déjà le ton sur lequel le poème doit être vocalisé et proclamé.
Et même les interlignes, les silences dans la textualité du poème permettent de mieux comprendre.
Et les blancs.
En tout cas, merci à toi, cher poète évêque. Merci à Michel et puis merci à vous, chers amis auditeurs, d'avoir fait le choix de Radio Arc-en-Ciel.